RFI, 8h30, à Paris, 7h30, en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau point sur l'info africaine avec vous, Arthur Ponchelet.
Et à la une, sa mort avait secoué le Cameroun. Il y a 2 ans, l'animateur radio Martinez Zogo était enlevé puis tué. Depuis, l'enquête a connu des rebondissements, mais le procès est enlisé dans des détails de procédure. Dans ce journal, témoignage de la sœur de Martinez Zogo. Elle demande à la justice de faire son travail pour enterrer son frère dignement. En France, suite du procès de Nicolas Sarkozy et ses co-accusés dans les soupçons de financement libyen de la campagne de 2007. Hier, Claude Guéant était à la barre et vous l'entendrez, l'ex-secrétaire général de l'Élysée était en difficulté. Au sommaire également, on sera à Djouba, le Soudan du Sud, secoué par des images qui circulent sur les réseaux sociaux. On y voit des Sud-Soudanais massacrés par des membres de l'armée soudanaise. Et puis direction la Côte d'Ivoire, les autorités durcissent le ton sur la fuite des produits agricoles. Hier, 4 tonnes de café en partance pour le Mali ont été saisies. Alors comment expliquer ces trafics? On l'entendra, la filière cacao apporte des réponses. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, l'animateur radio Martinez Zogo était enlevé devant un poste de gendarmerie de Yaoundé. 5 jours plus tard, on retrouvait son corps sur un terrain à l'extérieur de la ville. Le drame avait secoué le Cameroun. Dans son émission, Martinez Zogo dénonçait la petite et la grande corruption invectivée les puissants sans jamais s'en prendre au président Biya. Depuis, l'enquête a connu de nombreux rebondissements, mais le procès des 17 accusés est au point mort. Ce matin-là, sœur de Martinez Zogo, Flore Zogo, témoigne sur RFI. Elle parle d'une attente douloureuse et d'un sentiment d'impuissance.
Il y a 1 an, je ne pensais pas que à cette heure, à ce moment, on n'aurait pas de réponse, on n'aurait pas de solution. Tous les souvenirs remontent à la surface et franchement, c'est très dur. On est vraiment face à une impuissance qui n'a pas de nom. On ne peut rien faire en fait. Si la procédure judiciaire traîne, moi je pense que c'est quelque chose de prémédité, c'est vraiment politique. Et je sais même pas si ça vaut la peine de le faire, mais bon, s'il y a une demande, si je peux demander quelque chose, c'est que la justice fasse son travail et rapidement. Nous n'en pouvons plus, nous voulons connaître la vérité. Et comme ça se doit, et que dans quelques mois, qu'on sache qui sont les commanditaires, les meurtriers, et puis qu'on fasse notre deuil, qu'on fasse nos obsèques dans la dignité et l'honneur que mérite notre frère.
Propos recueillis par Amélie Tullet. On en parle aussi ce matin avec notre invité, le chroniqueur judiciaire Christophe Bobiokono, répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Entretien à réécouter sur RFI.fr. L'Espagne confirme l'enlèvement de l'un de ses ressortissants dans le sud de l'Algérie. Des hommes armés l'ont emmené au Mali voisin. Pas de revendication pour l'heure, mais les sources jointes par RFI accusent la branche sahélienne du groupe djihadiste État islamique. Au Niger, arrestation mercredi de l'ancien ministre du pétrole. Selon des membres de sa famille, Barké Mustapha a été amené vers une destination inconnue. On ne sait pas ce que lui reprochent les autorités. Il avait été limogé de son poste de ministre il y a près de 4 mois. En France, suite du procès sur le financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, hier le tribunal s'est penché sur le déplacement de Claude Guéant à Tripoli en 2005. Une visite au cours de laquelle il a rencontré Abdallah Senoussi, le patron des renseignements libyens, condamné à perpétuité en France pour l'attentat contre le DC-10 d'UTA. Selon l'accusation, son sort juridique serait l'une des contreparties envisagées aux millions libyens. À la barre, hier, Claude Guéant est apparu en difficulté. Compte rendu d'audience signé Laura Martel.
1er octobre 2005, Claude Guéant est à Tripoli pour préparer la visite de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Les enjeux en matière de lutte contre le terrorisme et l'immigration illégale étaient importants. La visite devait être une réussite, souligne l'octogénaire assis à la barre. Ziad Takieddine m'appelle et me dit « je vais vous faire rencontrer quelqu'un de très important ». Il ne vous en dit pas plus? Vous ne posez pas de questions? S'étonne la présidente? Non, pas plus qu'il ne prévient l'ambassade. La présidente est sceptique. Le directeur de cabinet d'un ministre dans un pays comme la Libye qui part seul voir un inconnu sans prévenir personne? À l'époque, j'étais dans un climat de confiance avec Takieddine, sans raison de soupçonner le traquenard dans lequel je suis tombée. Car ce n'est qu'au restaurant, selon lui, qu'il découvre qu'il dîne avec Abdallah Senoussi. Pourquoi ne part-il pas ? Ma mission était de préparer le succès de la visite du ministre. Je ne pouvais pas faire d'esclandre, plaide Claude Guéant. Vous avez évoqué le financement de la campagne ? Non, madame. Et la situation juridique de Senoussi ? Là, il y a incertitude, hésite-t-il. Mécontent d'avoir été piégé, Claude Guéant n'en parlera toutefois à personne à son retour. Rien ne va, rien n'est logique. Comment un homme de votre expérience se retrouve seul dans cette situation et la gère comme vous le décrivez, cingle le procureur, sauf si le but était d'évoquer quelque chose qui ne pouvait se dire qu'entre Senoussi, Takieddine et vous.
Laura Martel du Service France de RFI, lui, est inculpé pour incitation au soulèvement contre l'autorité de l'État. Au Togo, plusieurs organisations de la société civile et certains membres de l'opposition appellent à la libération de l'activiste Honoré Sokpor, alias Affectio. Il a été interpellé dimanche dernier. Selon ses soutiens, ce sont des publications sur Facebook qui lui seraient reprochées. Il dénonce une grave atteinte à la liberté d'expression. Faustin Archange Touadéra à Moscou. Le président centrafricain est en visite en Russie. Il s'est entretenu hier avec Vladimir Poutine. De cette rencontre, peu a filtré, seulement les propos préliminaires. Une déclaration dans laquelle le chef de l'État centrafricain a salué l'aide apportée, je cite, par les braves guerriers russes à son pays. La Centrafrique ou la Russie avaient dépêché des mercenaires présentés comme des instructeurs militaires. RFI Moscou, Anissa El-Jabri.
À peine une petite table au Kremlin entre Vladimir Poutine et Faustin Archange Touadéra, un des signes protocolaires classiques envoyés par la Russie pour souligner une proximité. Le président centrafricain a appelé le chef de l'État russe son très cher ami et dans la partie de son discours rendu public, il s'est félicité de la présence des forces russes dans son pays.
Aujourd'hui, l'armée formée par les instructeurs russes est une force puissante qui poursuit et détruit les terroristes et autres criminels sur le territoire de la République centrafricaine. Nous voulons continuer à travailler pour renforcer la sécurité à l'intérieur du pays, aux frontières de la République centrafricaine, en collaboration avec des spécialistes russes qui se sont révélés être de véritables professionnels et de braves guerriers.
Rien, en tout cas officiellement, sur une contrepartie sécuritaire dont on entend souvent parler depuis 2 ans, soit l'installation d'une base militaire russe dans le pays. En revanche, échange bien connu pour la présence des forces russes, Faustin Archange Touadéra a vanté les richesses naturelles de son pays.
La République centrafricaine regorge d'énormes ressources stratégiques et minières encore inexploitées. Je me réjouis de la signature par nos ministres des Mines et de l'Agriculture des protocoles d'accord en vue de redynamiser notre coopération dans ces deux domaines.
Quelques heures auparavant, la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko, avait promis à Faustin Archange Touadéra que les législateurs feraient tout leur possible pour la mise en œuvre des accords. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Le président angolais est lui en visite en France. João Lourenço a rencontré Emmanuel Macron hier. Au programme, des signatures de contrats à 420 millions d'euros et des discussions sur le conflit dans l'est de la RDC. On y revient en détail sur RFI.fr. On manifeste hier à Juba, le Soudan du Sud, secoué par des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Des images insoutenables où l'on voit des atrocités commises à l'encontre de Sud-Soudanais au Soudan voisin. Des tueries perpétrées par des membres de l'armée soudanaise. Elle parle d'actes individuels. On ne sait pas à ce stade combien de civils ont été tués. À Juba, en tout cas, l'émotion est vive. Le ministre des Affaires étrangères a même convoqué l'ambassadeur soudanais mercredi. Correspondant sur place de Florence Mieto.
John Samuel Bogo, le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, explique avoir convoqué l'ambassadeur soudanais pour exprimer l'inquiétude de Djouba et demander à ce que les autorités soudanaises facilitent une visite sur place à Madani.
Ainsi, nous pourrons recueillir les faits, voir ce qui est arrivé et à qui offrir des services consulaires et aussi informer leurs familles qui sont au Soudan du Sud.
L'ambassadeur du Soudan a quant à lui affirmé que ces violations des droits humains avaient été commises par, je cite, « des membres de milices ».
Nous avons créé une commission pour enquêter sur ces crimes, afin que leurs auteurs soient identifiés et arrêtés.
La société civile s'est largement mobilisée ce jeudi à Djouba. Taban Paride Locas Moy, président du syndicat national de la jeunesse du Soudan du Sud, s'est dit dévasté et traumatisé.
Nous demandons à notre gouvernement, aux agences de l'ONU et tout particulièrement au HCR, car les personnes tuées sont des réfugiés, de rapatrier ou d'évacuer les Sud-Soudanais vers un lieu sûr.
Il appelle à la création d'une commission d'enquête internationale et demande aux jeunes Sud-Soudanais de rester pacifiques dans leurs protestations. Florence Mieto, Djouba, RFI.
Au Soudan voisin, quelques jours avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le Trésor américain sanctionne le chef des forces armées soudanaises. Washington reproche au général Al-Bourhan d'être un obstacle à la transition démocratique. On part pour la Côte d'Ivoire avant de refermer ce journal avec cette nouvelle saisie de produits agricoles. Un camion transportant 4 tonnes de café vers le Mali a été saisi par les autorités. Le phénomène est régulièrement dénoncé par les autorités, mais également par les agriculteurs. La filière cacao est particulièrement touchée. Certaines organisations comme le syndicat agricole Synapsi tirent la sonnette d'alarme, Binta Diagne.
Baisse de la production, difficulté à s'adapter au changement climatique et surtout problème de commercialisation. Selon Moussa Koné, le président du Synapsi, le prix fixé à 1800 francs CFA le kilo pour la grande traite est trop bas. Cela contribue en partie, selon lui, à la fuite des produits agricoles vers les pays voisins.
Le problématique qu'ils appellent trafic, là, c'est parce qu'ils payent mal le cacao. Un planteur prend son cacao. En 2 km de son champ, on paye cacao à 5000. Au pire, on le contraint de prendre à 700 km pour venir vendre à 1800. L'intelligence humaine ne peut pas accepter ça.
Il n'y a pas de chiffre précis, mais les exportateurs parlent de près de 50 000 tonnes de produits agricoles illégalement vendus vers les pays voisins au dernier trimestre 2024. Cela représente une perte considérable, selon Jean-Michel Armand Kouassi, le président de la Ligue ivoirienne des producteurs agricoles.
Il y a des pistes qui servent de voie de désert. Il y a également des voies fluviales que les contrebandiers utilisent. Donc, c'est des milliards de francs CFA qui s'en vont là-bas. C'est un manque à gagner criard pour notre économie.
L'état-major de l'armée a annoncé la suspension de plusieurs responsables administratifs, sécuritaires et militaires dans le département de Sipilou impliqués dans ce phénomène. L'armée a assuré la poursuite de ses opérations de contrôle le long de la frontière, notamment à l'ouest du pays. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Et c'est à Abidjan que je vous laisse en compagnie de Julien Coquelle-Rohem.
Merci Arthur Ponchelet, bonne journée à vous.